Je suis heureux de vous retrouver pour ce second numéro de Hors-série. Hors-série, c'est un épisode court, une capsule comme disent nos cousins canadiens. Et l'idée, c'est de vous partager des informations sur un thème que j'ai choisi. Alors pour aujourd'hui, j'ai intitulé cet épisode « Ça ressemble à un contrat de travail, ça a le goût d'un contrat de travail, mais ce n'est pas un contrat de travail ». Alors de quoi allons-nous parler ? Eh bien, de la nature juridique du contrat qui lie les utilisateurs de plateformes, qu'ils soient chauffeurs VTC ou livreurs. Alors pourquoi avoir choisi ce thème aujourd'hui ? Eh bien parce que nous avons un contentieux maintenant depuis les années 2015 et des décisions de par le monde, de juridictions différentes, qui se sont penchées sur justement la nature de cette relation. Est-ce un contrat de travail ? Est-ce un contrat commercial ? Il ne vous aura certainement pas échappé que nous avons une décision toute récente, de début 2021, de la Cour suprême britannique. Les 6 juges de la Cour suprême britannique ont décidé de façon unanime de rejeter l'appel qu'Uber avait déposé à la suite de la décision du tribunal de l'emploi britannique en 2016, décidant que les chauffeurs de la plateforme de VTC ne pouvaient être considérés comme des indépendants. Donc la Cour suprême confirme la décision du tribunal de l'emploi. Ce qui est intéressant, c'est que la Cour suprême ne retient pas la nature de contrat de travail, mais elle retient un entre-deux. Je vous explique. Uber avait, un peu comme à son habitude, défendu l'idée que les chauffeurs étaient des sous-traitants indépendants et qui étaient exclus de ce fait des dispositifs de protection qu'offre la loi britannique pour les salariés. Alors la Cour suprême a, elle, considéré que compte tenu du contrôle exercé par Uber sur ses chauffeurs, notamment en ce qui concerne les décisions sur les tarifs, sur les destinations, les chauffeurs étaient bien affiliés à Uber et devaient être considérés comme tels du moment où ils se mettent sur l'application pour travailler jusqu'au moment où ils la quittent. Alors ce qui en découle, c'est que ce statut inclut davantage de droits que les indépendants, mais en même temps n'est pas identique au statut plein de salarié, qui implique quant à lui d'autres avantages comme les congés maternité et la possibilité de poursuivre l'employeur en justice en cas de licenciement abusif. Donc ce statut d'entre-deux permettra aux chauffeurs d'Uber d'avoir droit à un salaire minimum, aux congés payés et à une pension de retraite de l'entreprise, comme le veut le Code du travail britannique. Alors, à partir de cette décision toute récente, moi je vous propose de faire un point global sur les tribulations judiciaires des utilisateurs de ces plateformes. Alors, on va revenir au début et se poser d'abord la question, quels sont les critères pour qualifier un contrat de travail ? Alors, depuis 1954, c'est une jurisprudence constante. La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 juillet 1954, considère qu'un contrat de travail existe à partir du moment où on a 3 éléments. Une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Concernant la prestation, ça ne fait pas de doute, la rémunération non plus, et notons au passage que depuis 1942, quel que soit le mode de rémunération choisi, si elle existe, ça peut constituer un indice pour fonder un contrat de travail. Le lien de subordination, c'est vraiment l'élément clé sur lequel toutes les juridictions se sont penchées. Alors, la position des plateformes, et plus particulièrement celle d'Uber, qui, ayant de grandes parts de marché, a été très souvent au cœur du contentieux, sa position est relativement constante depuis plusieurs années. Uber considère que les chauffeurs ou les livreurs sont indépendants, car ils ont une liberté pour choisir le moment auquel ils vont travailler et la durée du travail. Alors, ceci n'est pas faux, parce qu'imaginons une personne qui vient travailler quand elle veut dans une entreprise et pour la durée qu'elle veut, on aurait un peu de mal à considérer cette personne comme étant un salarié. En même temps, quid lorsqu'il existe un horaire variable ? L'horaire variable donne la possibilité de démarrer quand on veut. Mais en même temps, le corollaire de l'horaire variable, c'est qu'il vous faut faire un nombre d'heures défini, alors que dans l'utilisation des plateformes, c'est totalement libre. Alors, du côté des utilisateurs de plateformes, on va dire des partenaires, comme dit Uber, eux retiennent l'argument suivant, nous sommes soumis à des directives pendant le temps de la prestation. Le lieu où nous devons prendre soit la personne à transporter, soit le repas, le lieu de livraison, le tarif. Alors cet argument des « travailleurs » entre guillemets, nous l'entendons bien également, parce que ce n'est pas une relation qui est identique à la relation, par exemple, entre un artisan et son client, où l'artisan est libre de fixer son tarif, est libre d'organiser son travail. Là, c'est la plateforme qui organise. Alors, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, et là je cite un arrêt de la Chambre sociale du 13 novembre 1996, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Or, Uber a la faculté de déconnecter temporairement ou définitivement le chauffeur ou le livreur dans différents cas. Par exemple, lorsqu'il refuse plus de 3 courses, ou en cas de comportement jugé problématique, et lorsque le taux d'annulation des demandes est trop élevé. Donc c'est sur ce point central du lien de subordination, existe-t-il ou pas, que tout le contentieux repose. Alors quelles sont les limites qu'il peut y avoir ? D'abord, si une plateforme modélise différemment la relation, eh bien, elle pourrait échapper à la notion de contrat de travail ou assimilé contrat de travail. Deuxième point, la Cour de cassation, pour le cas de la France, elle juge en droit, elle ne juge pas les faits, qui sont à la liberté d'appréciation au juge du fond en première instance ou en deuxième instance avec la Cour d'appel. Et cette liberté d'appréciation peut aussi entraîner des décisions différentes en France selon les tribunaux. Un petit peu comme nous l'avons connu avec les conseils de prud'homme. Alors, après avoir rappelé les critères du contrat de travail, voyons maintenant les actions qui ont été entreprises pour cadrer ces situations hybrides et nouvelles. Je vous rappelle que dès 2015, l'URSSAF avait signifié un redressement à Uber pour recouvrer des cotisations sociales, puisque l'URSSAF était dans une position où elle qualifiait le contrat de partenariat en contrat de travail. En mai 2016, l'URSSAF a assigné Uber au tribunal des affaires sociales de Paris pour exécution du paiement. Depuis, bien entendu, ça traîne, Uber n'a pas payé, et je pense qu'Uber ne paiera pas, puisque ce serait reconnaître que ce sont des sommes dues au titre de cotisation sociale, et donc corollaire d'un contrat de travail, ce qui n'est pas du tout la position d'Uber. Autre action pour cadrer ces situations, donc nous avons la loi travail du 8 août 2016, qui reconnaît une liberté syndicale et le droit de cesser collectivement le travail. Alors, ceci fait naturellement penser au droit de grève, qui est constitutionnellement reconnu aux travailleurs salariés bénéficiant d'un contrat de travail. Alors, cette loi de 2016 a institué la responsabilité sociale des plateformes en 2 articles, l'article L7342 alinéa 1 et 2, où les plateformes doivent prendre en charge de façon plafonnée la cotisation pour couvrir les accidents de travail si les chauffeurs et les livreurs adhèrent au contrat qui est proposé par la plateforme. À côté de l'URSSAF, à côté du législateur, nous avons eu également les actions émanant directement des chauffeurs et des livreurs. Par exemple, aux États-Unis, des chauffeurs Uber ont intenté une class action pour faire requalifier leur contrat en contrat de travail. Et la société Uber a versé une transaction de 100 millions de dollars pour éviter toute condamnation. En France, en 2017, on a vu des manifestations de livreurs et de chauffeurs contre les pratiques des différentes plateformes. Et à noter également l'action de la CGT en 2017, qui a créé un syndicat spécifique à Bordeaux. Alors je vous propose maintenant de regarder plus spécifiquement les décisions de justice qui ont été rendues dans ce contentieux. En 2017 et 2018, nous avons eu plusieurs décisions rendues dans les affaires Take It Easy. Alors tout avait commencé avec la Cour d'appel de Paris qui, le 20 avril 2017, a refusé de requalifier le contrat entre chauffeur-livreur et plateforme en contrat de travail, car il y avait une liberté totale dans le moment et la durée du travail. Donc en cela, elle a suivi l'argumentaire qui est l'argumentaire traditionnel de Uber. Donc, les chauffeurs et les livreurs ont fait appel de cette décision et la Cour de cassation a rendu son arrêt le 28 novembre 2018. Et dans cet arrêt, elle a requalifié en contrat de travail la relation entre la plateforme et les livreurs en vélo au motif que la plateforme avait un vrai pouvoir de surveillance, de directive et de sanctions mis en place par un système de points attribués ou retirés en fonction du comportement du livreur pendant l'exécution du contrat. Donc la cour d'appel s'était fondée sur le moment et la durée du travail, sa temporalité. La cour de cassation a, elle, retenu le lien de subordination. Entre ces deux décisions de la cour d'appel et de la cour de cassation, il y avait déjà eu une inflexion de la cour d'appel de Paris. Puisqu'en décembre 2017, elle a requalifié le partenariat entre un chauffeur VTC indépendant et la plateforme LeCab, en relevant que l'application avait le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler la bonne exécution. Poursuivant sur sa lancée, la Cour d'appel de Paris en janvier 2019 a retenu la requalification en contrat de travail dans deux affaires. Donc, une première affaire, le chauffeur avait saisi la justice en juin 2017, deux mois après qu'Uber ait désactivé son compte. Et donc à l'époque, il lui avait été expliqué par la plateforme que la décision avait été prise après une étude approfondie de son cas. Dans une autre décision, la Cour d'appel de Paris a retenu un autre argument pour requalifier le contrat. Elle considère, je cite, qu'une condition essentielle de l'entreprise individuelle indépendante est le libre choix que son auteur fait de la créer, que l'indépendant doit avoir la maîtrise de l'organisation de ses tâches, sa recherche de clientèle et de fournisseurs. Or, relève-t-elle dans cette affaire-là que le plaignant n'a pas pu se constituer une clientèle propre parce que cette possibilité est interdite par Uber et que le partenaire ne fixait pas librement ses tarifs ni les conditions d'exercice de sa prestation de transport. Alors, quelle est l'argumentation d'Uber par rapport au lien de subordination ? Mais elle fait valoir qu'à partir du moment où un chauffeur ou un livreur utilise son application, elle doit s'assurer du bon fonctionnement de cette application, du respect par le chauffeur de la réglementation, de la sécurité des personnes et de la qualité de la prestation de transport. Et elle fait valoir que la possibilité qu'elle a de rompre unilatéralement le contrat en cas de manquement grave et répété du chauffeur aux obligations résultant du contrat de partenariat ne peut pas s'assimiler à un pouvoir disciplinaire. Alors bien entendu, Uber a fait appel de cette décision et la Cour de cassation a rendu un arrêt en mars 2020 qui a confirmé la décision de la Cour d'appel. Alors, la Cour de cassation estime que le chauffeur qui a recours à l'application Uber ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas ses tarifs et ne détermine pas les conditions d'exécution de sa prestation de transport. le lieu de départ et le lieu de dépose du client, et que ce lien de subordination entre le chauffeur et la société rend fictif le statut d'indépendant du chauffeur. Suite à cette décision rendue en dernière instance, Uber a réagi de la manière suivante, en disant regretter bien entendu cette décision et qu'elle ne reflétait pas les raisons pour lesquelles les chauffeurs et les livreurs faisaient appel à ces services, raisons qui sont de tenir à une liberté totale d'organiser leur travail. La plateforme fait également valoir qu'au cours des deux dernières années, elle a apporté de nombreux changements pour donner aux partenaires plus de contrôle sur la façon dont ils utilisent l'application, ainsi qu'une meilleure protection sociale. Elle conclut en disant qu'elle continuera à écouter ses partenaires et à apporter de nouvelles améliorations. En disant cela, elle nous signifie qu'elle entend bien respecter les obligations de responsabilité sociale des plateformes découlant de la loi de 2016. Donc la décision de la Cour suprême britannique de début 2021 s'inscrit bien dans cette lignée, en retenant que pour le temps où les chauffeurs et les livreurs se mettent sur l'application, ils ne sont pas libres de leurs décisions sur les tarifs ou les destinations, que ceci matérialise bien le contrôle exercé par Uber sur eux et qu'à ce moment-là, ils sont bien affiliés à Uber et doivent être considérés dans une situation hybride entre l'indépendant et le salarié. Alors voyons maintenant des décisions que des États ont pu prendre pour cadrer la relation avec les plateformes. Dans l'État de Californie, qui est pourtant le berceau de la plateforme d'Uber, le modèle social de cette entreprise a été remis en cause. En effet, l'État de Californie a ratifié en septembre 2019 une loi qui contraint les plateformes de réservation de voitures à requalifier les conducteurs de VTC en salariés. Alors ce texte a été attaqué en justice par Uber et son concurrent Lyft en décembre 2019. Concernant l'Europe, la Commission européenne doit examiner la situation des travailleurs de la gig economy. Alors gig economy, ça vient de cette expression anglaise, gig, qui est utilisée comme étant synonyme de pourboire que l'on donne à des musiciens après un petit concert. Alors pour conclure, quelle est la politique actuelle des plateformes en 2021 pour naviguer avec les contraintes de toute cette construction jurisprudentielle ? Alors Uber fait un lobbying très fort auprès de la Commission européenne actuellement pour promouvoir, voire imposer, le statut américain qui est appelé Proposition 22 et qui a été adopté le 3 novembre 2020 par la Californie et qui revient sur la position de 2019. Puisque en Californie, depuis janvier 2020, les plateformes sont exemptées du Code du travail californien, qui inclut notamment un salaire minimum de $14 de l'heure. En échange de cette exemption, Uber annonce proposer différents avantages de protection sociale aux travailleurs, mais ces avantages ne semblent pas être passés encore dans les faits. En 2021, Just Eat annonce vouloir recruter en CDI de nombreux livreurs au SMIC. Avant la fin 2021, elle compte recruter 4500 personnes qui exerceront dans 30 villes françaises. La rémunération horaire des livreurs sera de 10,30€, quel que soit le nombre de courses effectuées. Deliveroo, quant à elle, prend un autre chemin et souhaite, en 2021, distribuer plus de 18 millions d'euros à ses livreurs à l'occasion de sa cotation en bourse. Donc elle a créé un fonds de remerciement, un Thank You Fund, dont une partie sera reversée aux livreurs. Alors comme Deliveroo ne considère pas ses livreurs comme des salariés, mais comme des entrepreneurs indépendants, la société ne peut pas légalement leur offrir des actions lors de l'introduction en bourse. Pas plus qu'elle n'est dans l'obligation de leur verser un salaire minimum, ni de leur offrir des congés payés, ni contribuer à leur retraite. Alors que pouvons-nous dire en conclusion de cet épisode? Eh bien d'abord que le monde a un petit peu bougé autour des plateformes, qu'il a réagi et que la justice a fait valoir des arguments juridiques qui ont un petit peu varié au fil du temps, mais qu'aujourd'hui le lien de subordination est vraiment l'élément clé retenu pour qualifier soit contrat de travail, soit contrat un peu hybride. Après, en deuxième lieu, je pense qu'Uber va continuer sur sa politique en refusant de considérer les partenaires comme des salariés. Tant qu'en fait, il n'y aura pas une class action à la française ou à l'européenne, j'imagine qu'elle va tenir sa ligne de conduite. Elle a les moyens de soutenir des contentieux jusqu'en cassation pendant de nombreuses années, et donc elle n'a aucun intérêt à requalifier massivement les contrats de ses partenaires. Et Deliveroo fait un entre-deux, elle continue de considérer les partenaires comme étant des indépendants et en même temps, elle est prête à partager une partie de sa réussite financièrement. Et en parallèle de ces grandes plateformes, on voit éclore des coopératives de coursiers, notamment à Bordeaux, qui ont un business model différent et une relation de travail conventionnelle avec les livreurs en faisant des CDD ou des CDI. Pour les personnes qui écoutent le podcast sur la plateforme Podcastix, sachez que je mettrai dans les notes de cet épisode un fichier avec le lien vers les principaux articles que j'ai cités. Voilà, ce point est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans un autre épisode. Au revoir.